partager avec vous aujourd'hui. Alors, j'espère pouvoir rebondir après tous ces beaux textes et tous ces beaux chants. La prédication de ce matin porte et sera portée par le psaume 27. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes agresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente les jours de malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous voici rassemblés pour écouter ta parole. Que tout soit fait à ta gloire. Que ta parole nous touche, Seigneur. Touche notre âme, touche notre cœur. Et qu'elle puisse se concrétiser en action dans les jours qui viennent. Amen. Noël, Christmas. Alors, nous avons célébré Noël il y a quelques jours. Je vous rassure, ce n'est pas une prédication sur Noël. Quoique... Nous avons célébré quoi? La venue en chair et en os du Fils de Dieu, appelé aussi le Fils de l'homme. Et cette venue, cette naissance, sert d'articulation, et c'est très important, elle sert d'articulation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, lesquels ne s'opposent pas, mais se complètent. La venue du Messie est annoncée dans l'Ancien Testament, et les apôtres font souvent... dans l'Ancien Testament, et les apôtres font souvent référence à l'Ancien Testament dans leurs écrits. L'Ancien Testament, je l'ai découvert depuis peu, et je me suis rendu compte que ce n'était pas une partie à part. Et le message de ce matin est étayé de passages de l'Ancien comme du Nouveau Testament, lesquels se répondent comme des échos. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau Testament. Un Dieu présent, qui aime son peuple et le guide. Cependant, avec la venue de Jésus, l'ancienne alliance va être remplacée par la nouvelle alliance. Et c'est ce Noël à Bethléem, Noël voulant dire naissance étymologiquement, qui va bouleverser l'histoire de l'humanité, votre histoire comme la mienne. un bouleversement majeur, merveilleux, extraordinaire, qui touche depuis le cœur de chaque homme et de chaque femme en quête de vérité et de sens pour sa vie. C'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Mais ce petit enfant de la crèche ou de l'étable, qu'importe, il est déjà derrière nous. Il n'est plus à Bethléem. Nous pouvons laisser cette image attendrissante de côté, non pas qu'elle n'a pas son importance, loin s'en faut, mais notre Dieu est un Dieu vivant et toujours en mouvement. Ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle, c'est Jésus qui va devenir Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qui va accomplir la volonté de son Père. Ce qui nous intéresse, c'est Christ. Il n'y a aucun équivalent dans les autres religions d'une telle marque d'amour donnée par un Créateur envers ses créatures. Le sacrifice du Fils pour son Père. Noël, Christmas. C'est le début d'une histoire annoncée depuis 2000 ans avant son avènement et qui continue plus de 2000 ans après. Le début d'une histoire avec un grand H. Et c'est à mon sens la plus belle histoire, et comme le dit un cantique, la plus belle histoire d'amour. Une histoire qui prend son sens par une naissance donc. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous retrouvons plus tard Jésus adolescent à Jérusalem, présent dans le temple, ce n'est pas rien, et qui impressionne fortement son auditoire. Ce n'est plus le bébé de la crèche déjà. Et puis plus tard, c'est Jésus devenu adulte qui commencera son ministère. Jésus qui deviendra Christ. Dans le terme anglo-saxon de Christmas, on entend Christ. C'est pour ça que j'aime bien ce terme. Donc une histoire qui a commencé, une histoire qui est ancrée, une histoire qui est actée et une histoire qui continue avec nous, par nous. Et ce que je vous propose aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle année, c'est de revoir les fondamentaux, il n'y a rien de bien original, hein, c'est de revoir les fondamentaux de notre vie de chrétien et de chrétienne, de revoir, de revisiter notre catéchisme en quelque sorte, de retrouver la joie de notre salut. Peu qu'on ait perdu. Parce que passer la magie de Noël et le folklore qui l'entoure, tout cela, ça veut dire quoi? Aussi, revenons à la lecture de ce jour, le psaume 27, un psaume très connu, je vous l'accorde. Mais Dieu, c'est magnifique, on peut relire des textes de nombreuses fois, il nous parle chaque fois d'une façon différente. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour vous et moi aujourd'hui. Le psalmiste commence par une déclaration puissante qui donne le ton à tout le passage. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Ces versets décrivent de manière vivante Dieu comme notre protecteur et notre guide, notre secours, notre recours. Je pense qu'on l'oublie des fois. En tout cas, moi je le dis. Il est notre lumière, éclairant le chemin devant nous et dissipant les ténèbres de la confusion et du doute. Il est notre salut. Il en a payé le prix quand même. Présent à nos côtés quand nous sommes confrontés aux dangers et assurant notre avenir éternel. Il est la force de nos vies, nous donnant la force d'affronter tous les défis qui se présentent, et Dieu sait qu'il y en a. Parce qu'il faut être réaliste, n'est-ce pas? La vie est tout sauf un long fleuve tranquille. Cependant, avec un tel Dieu à nos côtés, de notre côté, la peur devient irrationnelle, elle n'a plus raison d'être. Aussi, les deux questions rhétoriques du psalmiste, de qui aurais-je crainte et de qui aurais-je peur, ne sont pas vraiment des questions en fait, elles ne sont pas posées par incertitude. Ce sont des déclarations, des affirmations audacieuses de la foi. Et ces questions ont déjà leur réponse. Eh bien non, justement, je n'ai pas à craindre qui que ce soit. Je n'ai pas à avoir peur de qui que ce soit. Pourquoi ? Parce que Dieu est avec moi. Emmanuel. Ce dont il s'agit ici, et toujours et encore, je dirais, c'est de confiance et de faire confiance. Quel beau mot qui peut se traduire selon les contextes par foi, fidélité, loyauté et de fidesse, le mot latin, un clin d'œil à ma charmante belle-sœur. On a fidélité, ses dérivés, se fier, se confier, confidence, défi, défiance, méfiance, perfidie. Et le très joli mot de fiancé, j'avais paralysé. Et bien sûr, le mot foi. Dès le début de la Bible, dès les premiers mots qui nous ont été transmis de génération en génération, la foi, confiance, joue un rôle décisif. Par exemple, pour illustration, c'est plus qu'un exemple, Dieu fait une promesse invraisemblable à Abraham, celle d'une postérité. D'ailleurs, qui met à l'épreuve la confiance de celui-ci en demandant le sacrifice d'Isaac. Et Abraham traverse cette épreuve dans l'obéissance et la confiance. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, c'est dans Genèse au chapitre 22. Abraham, en quelque sorte, est le père de la confiance. Dans le Nouveau Testament, la confiance joue également un rôle majeur, décisif. C'est par un acte d'amour confiant que le Christ remporte la victoire sur toutes les puissances du mal et attire tous les hommes à lui. Et il ne suscite pas seulement leur confiance, il fonde leur assurance. Il nous donne un sens à notre vie. Le disciple confiant devient en effet témoin fidèle, appuyant sa fidélité sur celle de Dieu. Il a confiance que la grâce divine achèvera son œuvre. On trouve ça dans Actes au chapitre 20. Et par-dessus tout, le Christ lui-même fait l'expérience de la confiance au moment où, consommant son sacrifice, il expire dans un cri. « Entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est dans Luc 23. On est loin de la crèche. Hein ? Il y a donc un élément proprement divin dans la confiance. Foi, confiance, et on peut ajouter obéissance, sont intimement liés. Et une confiance qui n'est pas exclusive au psalmiste, mais est accessible à tout être qui place sa confiance, sa vie en Dieu. Mais comment pouvons-nous développer, abriter, nourrir ce genre de foi inébranlable dans nos vies? Une réponse, peut-être pas la réponse, mais une réponse est donnée dans le 4e verset du psaume 27. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. La confiance inébranlable demande que nous fassions de Dieu, notre objectif principal et le désir le plus profond de notre cœur. Que nous le cherchions ardemment, que notre cœur brûle pour lui. C'est le sens étymologique de ardent, ardemment. Brûler, un cœur brûlant pour Dieu. Le psalmiste ne demande pas la richesse, le pouvoir ou la sécurité matérielle. Ce qu'il désire avant tout, c'est la présence de Dieu. D'un cœur ardent. Cela nous enseigne que la véritable foi, celle qui fait sens, la foi vivante, se construit, se vit sur une relation intime avec Dieu. Une relation dans laquelle ce qui compte le plus n'est pas ce qu'il peut faire pour nous, mais ce qu'il est pour nous. Ce qu'il est pour nous. Et lorsque nous faisons de la poursuite de Dieu notre plus haute priorité, tout le reste se met en place. Tout le reste prend sa place. Et tout fait sens. Nos problèmes, alors, deviennent plus petits, en tout cas, un peu moins insurmontables à la lumière de sa grandeur et de sa bonté. Nos peurs se dissipent devant son amour et nos faiblesses le sont un peu moins par sa force. Va avec la force que tu as, disait Dieu à Gédéon, juge au chapitre 6. Va avec la force que tu as. Il le dit toujours aujourd'hui à chacun et chacune d'entre nous. Et dans Roi 1, quand Josué a 3 jours devant lui pour traverser le fleuve et prendre pied dans la terre promise, par 3 fois, cette promesse lui est faite. Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Cette parole a donné à Josué dans un contexte de pleine détresse, Moïse en train de venir de mourir, nous réconforte encore aujourd'hui, nous encourage, car nous avons nous aussi des fleuves à traverser. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent, que les difficultés s'effacent, mais cela signifie que nous commençons, nous décidons de les affronter différemment. Encore une fois, la vie est tout sauf un long fleuve tranquille. Un cours d'eau, c'est la vie. Un cours d'eau peut connaître des saisons de crue, de sécheresse, mais aussi des saisons de reverdi, de printemps. La vraie foi, la voie sincère, n'est pas seulement une question d'acceptation de quelque chose dans un moment de clarté, le jour de notre conversion, qui pour certains d'entre nous remonte peut-être à très longtemps. Ah, ce beau jour où Dieu m'a tutoyé. Il s'agit à présent de la maintenir, cette confiance, de la protéger, de la nourrir, de la faire grandir jour après jour. L'idéal serait de ne pas avoir à invoquer Dieu pour qu'il nous rende la joie de notre salut. Cette joie, cet émerveillement, cette reconnaissance devrait se renouveler chaque matin, de même que les promesses de Dieu se renouvellent chaque matin. Et cela, quelles que soient les circonstances de notre vie. Le psalmiste illustre cette vérité en montrant que même au milieu des dangers et des incertitudes, il s'accroche à la confiance en Dieu. Et nous voyons ce principe reflété dans Philippiens au chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est l'application pratique de la confiance exprimée dans le psaume 27. Une foi qui reconnaît la réalité des défis, mais qui choisit de se concentrer sur la réalité supérieure de la présence et de la puissance de Dieu. Mes chers frères et sœurs, d'Aubagne, cette foi n'est pas réservée aux géants spirituels ou aux héros de la Bible, hein, pas besoin d'être un super chrétien ou une super chrétienne, hein, ni aux acteurs de l'Ancien Testament comme ceux du Nouveau Testament. La bonne nouvelle, c'est que cette foi est à la portée de chacun et de chacune. Des princes comme des mendiants, des grands comme des petits, hier comme aujourd'hui. Cela commence par la simple mais ferme décision de détourner notre attention de nos problèmes. Et cette attention, la placer sur celui qui pourvoit. Garder les yeux fixés sur la croix. En agissant ainsi, nous faisons preuve de confiance, laquelle ne peut alors que grandir. Une confiance non pas fondée sur nos propres forces, hein, pauvre fou que nous serions de penser cela, mais fondée sur la puissance et la parole de Dieu. Ne pas ignorer les difficultés, d'ailleurs elles ne nous ignorent pas, hein, mais avoir cette certitude que Dieu nous soutient, qu'il est là à nos côtés. Rechercher la présence de Dieu, toujours et encore. Passer du temps en sa présence. Trouver auprès de lui sagesse et réconfort. D'ailleurs, le psalmiste, on pense que c'est selon David, il avait fait un autre souhait, un autre vœu, c'est qu'il demandait la sagesse. Mais ça serait pour une autre prédication. Donc, trouver auprès de lui sagesse et réconfort, contempler sa beauté et méditer sa parole et le louer avec nos frères et sœurs dans sa maison. Une confiance qu'aucune circonstance ne devrait pouvoir ébranler. Au premier abord, à la première étude, le christianisme peut sembler tourner entièrement autour de la moralité, des devoirs et des règles. Je ne dis pas ça de façon négative. Le décalogue, les 10 commandements, en est une illustration. Mais le christianisme, c'est bien plus que cela. Au-delà, c'est une vie transformée par la grâce de Dieu. Sola gratia, la grâce et la grâce seulement. L'un des 5 fondements de notre foi protestante quand même. Faire confiance à Dieu, c'est découvrir une paix et une force qui dépassent, qui surpassent toute compréhension. Placer sa confiance en Dieu, c'est trouver des réponses. Pas toutes les réponses, hein, mais trouver des réponses, mais pas seulement. C'est aussi recevoir des révélations. C'est vivre la réalité de Jérémie au chapitre 33, verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » N'est-ce pas merveilleux ? Alors, en guise de conclusion, une année, puisqu'on est à l'aube, une année ne dit pas le tout d'une existence. Une année n'est qu'un fragment de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous projetons. Par conséquent, s'il était possible de dire d'une année qu'elle a été bonne ou mauvaise, cela ne dirait pas grand-chose de nous, de ce que nous sommes encore capables de vivre, d'éprouver, d'accomplir. Une même année peut être épouvantable pour les uns, merveilleuse pour les autres. Est-ce que cela fait autant pour les premiers, des moins bons chrétiens ? Ben, Dieu merci, non ! Une année ne dit rien de ce que nous sommes véritablement. Comme le rappelle Paul, c'est Dieu et Dieu seulement qui donne le signal et qui rassemble en lui notre existence le jour où il nous rappellera à lui. C'est Dieu qui seul peut prendre la mesure de ce que nous sommes. Alors le jour de l'an en forme de jour du jugement ou de bilan est une pédagogie et n'est qu'une pédagogie que nous pouvons mettre en place pour nous aider à mieux nous orienter vers la vie voulue par l'Éternel, à nous exhorter les uns les autres, à s'exhorter soi-même, en laissant retentir en soi l'appel vibrant de Dieu à poursuivre la création, à mettre au monde l'humanité, plutôt que d'opter pour ce qui défigure le monde. Personnellement, ça fait longtemps que je ne fais plus de vœux. Je n'ai jamais tenu. Un jour de l'an, compris comme une étape sur le chemin de notre vie, pour faire le point, comme le font les randonneurs qui déterminent leur position exacte et réajustent leur direction. Et c'est une manière de dire que cette année encore, je me confie en Dieu, j'accepte sa souveraineté. Et qu'est-ce que Dieu attend ? Qu'est-ce que Dieu attend ? Ben, ce qu'il attend de nous, c'est la confiance inébranlable qui vient de la vraie foi, de la foi vraie, sola fide. Un autre des 5 fondements de la foi protestante. Je vous avais dit qu'on allait revoir notre catéchisme. Et cette confiance ne vient pas de nos propres capacités ou de nos propres forces, mais d'une compréhension profonde de qui est Dieu et de ce qu'il promet d'être pour nous. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de chercher à être le meilleur sur terre, mais à nouer une relation avec lui, ainsi qu'une relation de fraternité les uns avec les autres. Dans Matthieu 12, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Et Jésus répond, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et après, suit évidemment, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu voit notre attachement à lui et nos difficultés souvent à vivre selon sa parole. Il voit également notre persévérance en vue de la fin de l'histoire, son royaume. Nos actions quotidiennes, quelque part, lui importent peu. Il se soucie peu de nos œuvres, et sait, parce qu'il sait que nous sommes pécheurs. Nous avons des échecs, nous échouons. Notre foi seule peut nous sauver en trouvant justice à ses yeux. Ce n'était pas au Nouvel An, mais l'apôtre, Jean, a exprimé un vœu pour l'un de ses amis. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Alors, je le souhaite pour vous comme pour moi, et vivre toujours dans la présence de Dieu, vivre dans la conscience de Dieu, vivre dans la confiance de Dieu. Chers frères et sœurs, je nous souhaite pour 2026 d'avoir soif de Dieu. Je vous avais dit que les chants, en fait, ils préparaient ça. Je nous souhaite d'avoir soif de Dieu et d'étancher cette soif toujours et encore. C'est tout simplement vital. Dieu nous bénit ici et maintenant et ne nous laisse pas seuls face à notre destin. Il a promis qu'il serait avec nous tous les jours de notre vie. Dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors, ayons foi, ayons confiance. Dans toutes les saisons de notre vie, chaque année de notre vie, il est là. Et n'oublions pas, n'oublions jamais que dans les saisons difficiles, il nous porte sur ses épaules de géant. Amen.